Europe 1, la libre antenne, Olivier Delacroix.
Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous avez passé une agréable journée, que vous avez maintenant chaud, que vous êtes chez vous ou dans votre voiture, bien à l'abri de ce froid cinglant, mais bon, c'est la saison et ça fait du bien un petit peu de froid, comme je le disais à Raphaël, c'est quelque chose qui nous rend plus tonique, chers amis. C'est votre libre antenne jusqu'à 1h du matin, vous le savez, vous pouvez nous appeler au 3921. Même celles et ceux qui nous écrivent déjà ce soir, le groupe des amis des ex-éducatrices par exemple qui nous écrit ce soir et qui peut-être pourrait décrocher son téléphone pour s'expliquer de ce SMS un petit peu énigmatique qu'elles nous ont envoyé visiblement. Nous ne comprenons pas très bien de quoi ce comité, le groupe des amis ex-éducatrices, de quoi vous parlez, chers amis. Donc appelez-nous au 3921 et peut-être pourrons-nous nous expliquer. Pour les autres, vous appelez 3921 quand vous en avez envie, bien évidemment. Vous nous écrivez au 739-21 suivi du mot nuit, écrit en lettres majuscules, suivi d'un espace. Vous écrivez vos mails à libreantenne@europe1.fr. Et puis vous pouvez aussi écrire à Julia et à Florian sur la page Facebook de la Libre Antenne. Il n'y a que Olivier Delacroix, la Libre Antenne, où vous pouvez adresser vos messages en privé à ces deux jeunes gens qui vous rappelleront dans les plus brefs délais. Vous êtes là pour vous raconter, nous sommes là pour vous écouter. Il n'y a plus qu'à votre libre antenne du mardi, c'est parti.
Olivier Delacroix est à votre écoute sur Europe 1.
Et pour débuter cette émission, nous accueillons Caroline au 3921. Bonsoir Caroline.
Oui, bonsoir.
Bonsoir, d'où nous appelez-vous Caroline et quel âge avez-vous ?
J'habite à Versailles et j'ai 30 ans.
30 ans, très bien. De quoi voulez-vous nous parler, ma chère Caroline ?
Alors, ce soir, moi, j'avais à cœur de vous parler du handicap, de la place dans la société et du fait que, quand on est en fauteuil roulant, eh ben, la vie n'est pas terminée. Moi, j'ai eu un accident il y a bientôt 5 ans et je vis pas ma meilleure vie, mais presque.
Ah, très bien. Bon, vous allez nous expliquer ça. Vous avez eu un accident quand et dans quelles circonstances ?
J'ai eu un accident lors de la fin d'une saison au ski, il y a du coup maintenant 5 ans dans la station de Tignes. Et ça a été assez radical pour moi. J'ai tout de suite su que j'allais plus sentir mes jambes et du coup que je ne marcherais plus. Après j'ai quand même réussi à rebondir assez rapidement.
Oui. Mais le ski, décidément, moi ça fait longtemps que je n'en fais plus, mais c'est dangereux quand même le ski. J'entends régulièrement des accidents d'une gravité certaine quand même, parce que vous êtes tombée toute seule. Comment ça s'est passé ? En fait, j'aimerais savoir, parce que je pense qu'on peut se poser des questions. Vous alliez vite, pas vite ? Enfin, si vous avez envie de me raconter, hein.
Oui, bien sûr. Effectivement, ça peut être un peu dangereux quand on maîtrise pas forcément, tout, et d'autant plus quand ce sont les autres qui nous rentrent dedans, comme il y a pu avoir effectivement avec le tragique accident de Gaspard Huliel.
Oui, oui.
Après, une fois maîtrisé, quand c'est plus nous, malheureusement, c'est des accidents bêtes qui arrivent. Là, j'ai fait ça malheureusement toute seule. Après je m'en sors plutôt bien sur ce rebond, donc il faut continuer dans cette voie et dans cette dynamique.
D'accord, alors je lis qu'il faudrait un miracle pour que vous remarchiez. Qu'est-ce que ça veut dire ?
Ça veut dire que là je suis toute la journée en fauteuil roulant.
Oui.
Et qu'il n'y a pas forcément d'amélioration possible naturelle, on va dire. Les progrès de la médecine ne sont pas encore tels, finalement, qu'on peut remarcher aussi facilement qu'avant. Alors, je ne suis pas très, très branchée pour le moment sur le sujet. J'attends de voir les vraies évolutions. parce qu'il ne faut pas non plus créer de faux espoirs inutilement. Et c'est vrai que je préfère vivre facilement ma vie en fauteuil, enfin du moins le plus facilement que je peux, plutôt que d'avoir des faux espoirs de « je vais remarcher un jour, je ne sais pas quand » et être dans l'attente, et au final réussir à remarcher, mais difficilement, etc.
Mmh, d'accord. Lorsque vous avez eu cet accident, Caroline, bon, je suppose qu'il y a quelques mois qui sont compliqués. Comment est-ce que vous vous êtes, comment vous avez relevé la tête? Comment j'entends cette énergie, cette joie dans cette dans cette voix. Comment vous êtes arrivé à cet état de vie, hein, d'espoir et de pêche, puisqu'on va le voir, vous êtes en plus très entreprenante. Donc, comment avez-vous fait? Est-ce que c'est la famille? Est-ce que ce sont les amis? Est-ce que vous êtes quelqu'un qui accepte la fatalité quelque part et qui se reconstruit à partir de ce qui arrive? Expliquez-moi ça.
C'est un peu tout ça, effectivement. C'était bien visé. Après mon accident, j'ai été pendant une quinzaine de jours à l'hôpital de Grenoble en réanimation. Et là, ça a été assez extraordinaire. Enfin, toute ma famille est descendue et vraiment, j'étais aux petits soins, tant par eux que par le service de réanimation que je remercie. Et ensuite, j'ai passé 8 mois à Garches dans l'hôpital Raymond Poincaré.
Oui.
Et là, j'ai vraiment été hyper soutenue par toute ma famille, mes amis qui sont venus me voir plusieurs fois par jour même. Je leur demandais de m'apporter mon repas du midi ou du soir s'ils passaient sur un créneau de repas. Et le soutien des proches de la famille est hyper important dans ces cas-là et de ne pas se sentir abandonné parce que même si, au final, eux, ils ne peuvent physiquement rien faire pour nous à ce moment-là, en fait, de savoir qu'on n'est pas abandonné et qu'il y a des personnes qui sont là pour nous, en fait, c'est juste génial et je pense que ça fait 80% du travail dans la rééducation, quoi.
Je crois que vous avez aussi bénéficié d'une sorte de modèle à cette époque qui vous a donné de la force.
Tout à fait, exactement. En fait, ce que je racontais du coup à l'autre journaliste, c'est que moi, j'ai quelqu'un dans mon entourage qui est déjà paraplégique depuis 30 ans, qui en a 60 maintenant,
oui.
Et qui est assez extraordinaire, qui fait énormément de choses dans sa vie. Et pour moi, je l'ai toujours connu en fauteuil roulant. Et du coup, c'est vrai que de savoir qu'il fait autant de choses, ben, en fait, ça a été assez porteur d'espoir et un message assez fort pour moi à ce moment-là. De me dire, bah, en fait, tu sais qu'il y a des choses qui sont possibles. Et du coup, bah, maintenant, en fait, on y va. Et comme j'ai toujours, enfin, tout de suite su, au moment où j'ai eu cet accident, que potentiellement je ne remarcherai jamais, et bien, en fait, voilà, il y avait une page du livre qui se tournait. Pas le livre en entier, juste la page qui se tourne. Et puis là, c'est le moment de se battre et de réussir à faire en sorte que tout aille mieux. En centre de rééducation, j'ai rencontré des personnes avec qui je suis toujours en contact, qui, elles, étaient un peu plus avancées dans le processus de réanimation, de rééducation. Et du coup, c'est vrai que ça donne un peu de l'espoir de dire, bah, voilà, dans 3 mois, 6 mois, je peux en être ici. Et ça avait été assez porteur d'espoir. Et d'autant plus accompagné également que ma famille venait de temps en temps, une fois par mois à l'hôpital, avec une petite boîte cadeau. Donc ça aura probablement son importance dans la suite de notre discussion. Une boîte cadeau qu'elles avaient appelée Ostobox. Et en fait, c'était une boîte à chaussures dans laquelle elle remplissait divers objets.
Mmh.
Et en fait, il y avait des produits alimentaires, des produits cosmétiques, des soins, des jeux, des défis, des livres, un Polaroid, un album photo. Et en fait, tout ça ont fait que ma rééducation s'est vraiment embellie, si je puis dire. C'était pas, voilà, la pauvre, elle est en rééducation, c'est pas de bol, ça va être compliqué, etc. C'était vraiment essayer d'amener de joie, de la fun et du fun dans ce moment qui n'est pas forcément, bah, voilà, évident non plus, il ne faut pas se cacher. Quoi.
Oui, vous avez tout de même une certaine force de caractère, je suppose que ça, vous pouvez le reconnaître, ça, dans votre grande modestie, non?
Probablement.
Ben, oui.
Probablement, ouais. Si j'ai réussi à être là ce soir et à parler, à vous parler, c'est que vraiment, enfin, voilà, moi, j'ai envie de me battre et de faire en sorte que les choses avancent. Et je pense que je fais probablement d'ailleurs plus de choses maintenant que ce que je pouvais en faire avant mon accident, où je travaillais en pâtisserie, dans des restaurants gastronomiques. Je n'avais pas forcément beaucoup de temps pour faire des activités, etc. Parce que le métier est quand même très prenant. Et là, je me dis, bon, bah voilà, c'est un peu l'occasion d'avoir une deuxième vie. Profite-en à fond et je fais beaucoup de choses. J'ai beaucoup de chance d'avoir des amis qui sont motivés, de la famille qui sont motivés pour faire énormément de choses avec moi. Donc, c'est vraiment un grand plaisir.
Je lis que vous étiez pâtissière avant, mais que vous ne vous êtes, après cet accident, plus senti hein, de continuer ce métier dans un fauteuil. Alors, comment vous avez envisagé la suite, professionnellement parlant ?
C'est vrai que ça fait partie du processus de rééducation, tout ça, mine de rien, parce que en fait, il faut faire un peu un trait. En tout cas, pour ma part, il fallait faire un trait sur cette vie-là, qui est une vie à 100 à l'heure, et en fait, qui ne correspond pas forcément à la possibilité d'être en fauteuil. Et moi, je n'avais pas envie d'avoir quelqu'un à côté de moi, en cuisine ou en pâtisserie, à qui dit est-ce que tu peux faire ci, est-ce que tu peux faire ça. Enfin, voilà, moi, je vais être très dans l'opérationnel. Et du coup, il a fallu retrouver un petit peu une source de un travail. Donc, j'ai commencé à aller au salon de l'étudiant pour voir un petit peu ce qui pouvait se faire et envisager une reconversion. Et en fait, là, je me suis aperçue que les écoles ne sont pas très, très accessibles. Il y avait toujours pas d'ascenseur, pas de place, par exemple, de parking pour les personnes en situation de handicap. Il y avait énormément de contraintes.
Oui.
Je me suis dit, finalement, ça fonctionne pas. Est-ce que le mieux, ce serait pas de créer toi-même ta boîte et de devenir entrepreneur?
D'accord, ok. Donc, cette idée, Ostobox, hein, cette boîte cadeau que vous avez reçue de vos amis dans les premiers mois. Hein. Vous en avez reçu plusieurs, Ostobox, ou qu'une?
Tout à fait, j'en ai reçu plusieurs. L'idée, c'était... En fait, à chaque mois, du coup, il y avait une boîte. Et c'était, si tu réussis correctement le défi du mois, on te donne la prochaine boîte. Donc, il y a eu divers défis et variés. Une famille qui a beaucoup d'imagination. Et du coup, c'était assez chouette de pouvoir avoir chaque mois sa petite surprise. Parce qu'elles avaient beaucoup d'idées. Donc, c'était vraiment, vraiment sympa, quoi.
D'accord. Donc, vous avez fondé votre entreprise ?
Tout à fait. J'ai fondé donc l'entreprise qui s'appelle Ostobox.
Oui, et ça marche comment en fait? Et vous travaillez avec les hôpitaux? Comment ça se passe?
Alors pour l'instant, je travaille beaucoup avec les associations.
Oui.
L'idée, c'est de pouvoir répondre le plus à même les besoins des personnes qui sont à l'hôpital et que vont visiter les associations. Et du coup, là, par exemple, je travaille avec une association qui s'appelle Transhepat, qui va visiter des personnes qui sont greffées du foie. Transhepat est composé uniquement de personnes qui elles-mêmes sont transplantées du foie. Et donc, c'est un rapport qui est vraiment très, très de proximité avec les personnes qu'elles vont visiter. Et on avait une liste, avec Ostobox, on a établi une liste des choses qui pourraient être utiles pour ces personnes-là. Et en fait, ça a été du coup co-créé comme ça, et c'est vraiment donc des produits qui sont bons, parce que quand on a été transplanté, finalement, il y a des produits qu'on peut pas manger, par exemple le pamplemousse, il y a des produits qu'on peut pas se mettre sur la peau, etc.
Oui.
Donc c'est vraiment répondre au mieux aux besoins de ces associations avec des produits qui sont fabriqués en France et dans la mesure du possible quand même. On essaye d'avoir le plus faible impact environnemental possible. Et là, donc, je suis en train de développer l'offre pour les particuliers. Donc, l'idée, ce sera que les particuliers pourront aller sur le site internet. Alors, pas maintenant, parce qu'il est encore en construction. Mais on peut laisser son adresse mail pour être tenu au courant des futures avancées ou suivre sur les réseaux sociaux même. Et l'idée, c'est de pouvoir aller sur le site internet, d'avoir un cadeau qui soit clé en main et de pouvoir apporter autre chose qu'une tablette de chocolat ou autre chose qu'un bouquet de fleurs à son proche et laisser une empreinte un peu plus personnelle, du coup, à son proche qui est hospitalisé.
Je vois qu'aussi, vous vous êtes lancé dans des défis sportifs.
Oui.
Décidément.
Exactement.
Hein. Ça, c'est la patate, hein, depuis que...
C'est ça, j'ai un renouveau.
Ouais, ouais. Non, mais en fait, bon, j'ai rencontré il y a quelques mois un garçon qui doit avoir autour de votre âge, hein, et
ouais.
Qui m'a expliqué que finalement, à un moment, il s'est dit la vie continue ou la vie s'arrête.
C'est exactement
ça. Et voilà, quand il me dit, quand j'ai choisi que la vie continuait, que maintenant, ça serait comme ça. voilà, je me suis mis en option. Voilà, maintenant c'est comme ça. Il va falloir que j'agisse en fonction de ces nouvelles données qui ne sont pas évidentes. Hein. Mais bon, il avait une amoureuse qui est devenue sa femme d'ailleurs, et je pense que ils attendent un bébé tous les deux.
Félicitations.
Oui, c'est vraiment. Voilà, quand je dis que la vie continue et quand on choisit ça et qu'en plus on a la chance d'avoir aussi un compagnon ou une compagne qui reste, parce que...
Oui, ça c'est pas évident. Hein.
Ça n'est pas du tout évident. J'avais trouvé
ça
formidable.
Je parle en connaissance de cause.
Oui, oui.
Bah, malheureusement, c'est vrai que ça arrive très souvent. Et après, ouais, on ne peut pas blâmer non plus, ça dépend du type de relation qu'on peut avoir avec cette personne-là, mais c'est vrai qu'un accident de la vie tel, en fait, ça fait peur. Et nous, déjà, on est dans une situation où on se dit « mince, qu'est-ce qui va nous arriver ?» Et c'est vrai qu'en général, le handicap, c'est quelque chose dont on n'a pas été sensibilisé. C'est vrai que souvent, il y a un peu des fuites en arrière de la part des conjoints, conjointes,
oui,
moment, quoi. Oui. Mais bon, et donc, pour revenir sur les défis sportifs, effectivement, j'ai eu la chance de faire pas mal de choses. Notamment grâce à l'association Comme les Autres, qui est une association qui a été fondée par Mickaël Jérémiaz il y a maintenant 11 ans, je pense, et qui aide dans la reconstruction justement des personnes paraplégiques après du coup leur accident ou une maladie qui survient. Et l'idée, c'est d'avoir des accompagnements sociaux et également sportifs pour retrouver un peu toute une dynamique. Et donc, j'ai pu faire un séjour au Maroc avec eux et retrouver aussi un peu ce goût du sport, des sensations fortes, etc., que j'avais pas totalement perdu. Et force de ça, j'ai pu continuer à donc faire pas mal de sport avec ma famille, avec mes amis. L'année dernière et cette année, j'ai fait du vélo, donc sur un handbike avec mes sœurs. L'année dernière, on avait fait Versailles jusqu'au Mont-Saint-Michel, donc c'est à peu près 400 km. Et cette année, avec deux de mes sœurs, on a fait le Mont-Saint-Michel, du coup on est reparti de là jusqu'à Nantes. Et c'est des défis qui sont absolument géniaux parce qu'en fait, humainement parlant, c'est vraiment incroyable de rencontrer les personnes, de sensibiliser au handicap. Et en fait, on dormait pas du tout à l'hôtel, on allait rencontrer les gens chez eux via différents sites d'hébergement cycliste. Et du coup, ça sensibilise vraiment encore plus les gens, leur dire bah, en fait, voilà, vous voyez, on est des personnes en fauteuil, certes, mais on est encore capable de faire énormément de choses. Et là, vous nous voyez à vélo, mais demain, vous me verrez probablement dans les airs parce que je vais aller faire du saut en parachute. Demain, vous me verrez peut-être sous l'eau parce que j'aime bien plonger. Demain, vous me verrez peut-être en train de conduire une voiture de F1 ou F4 parce que j'aime bien les sensations fortes. Enfin voilà, je vais recommencer à skier, je refais du basket. Enfin voilà, je fais pas mal de choses.
Très bien, on va marquer une petite pause si vous le voulez bien, ma chère. Et puis, on se retrouve dans quelques secondes pour... justement, que vous m'expliquiez comment vous allez tenter de repousser toujours plus loin les frontières. Et surtout, je dirais, parce qu'il y a quelque chose qui m'a saisi dans votre propos, c'est que vous dites que la société est prête à évoluer, mais qu'il faut l'aider. Et ça m'intéresse. À tout de suite, Caroline.
Vous aussi, venez vous confier à Olivier Delacroix en appelant le 3921, 50 centimes la minute.
23h29 sur Europe 1, c'est la Libre Antenne et vous pouvez composer le 3921 si vous désirez nous parler, chers amis. Caroline, vous dites que vous pensez que la société est prête à ce que les choses évoluent, mais il y a encore du boulot. Parce que bon, ces défis sportifs montrent que on est capable de faire comme les autres, hein, comme l'association s'appelle, je crois. Mais comment faire bouger la société ? Vous évoquiez tout à l'heure les écoles, parce qu'on est plein de bons sentiments dans ce pays, mais quand il s'agit de passer à l'acte, vous voyez, les choses ont plus de mal à bouger. Je ne sais pas quel est votre ressenti par rapport à ça, et surtout par rapport à la situation des personnes porteuses de handicap dans la société, dans la rue, l'accès aux magasins, l'accès aux écoles, l'accès aux bâtiments administratifs, enfin, tout un tas de choses qui ne sont pas très agréables pour vous.
C'est exactement ça. Après, moi, je vais un peu prêcher pour ma paroisse de personnes en fauteuil. Je ne connais pas tout type de handicap, même si je me renseigne de plus en plus. Mais donc, j'imagine qu'il y a probablement d'autres problématiques qui existent pour d'autres handicaps. Mais là, on va du coup parler pour le fauteuil roulant. C'est exactement en fait ce que vous disiez. On est plein de bons sentiments. Mais quand il s'agit de passer à l'action, malheureusement, souvent, c'est l'aspect financier qui est un petit peu compliqué. À sortir d'argent pour créer une rente pour que le commerce soit accessible, et ben souvent les personnes se disent ça sert à quoi, il y a pas de personnes en fauteuil qui viennent dans mon commerce d'habitude ou qui veulent essayer d'y rentrer, je vais pas créer une rente et dépenser de l'argent pour eux. Ben ouais, mais en fait le problème c'est que c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Si votre commerce n'est pas accessible, ben finalement, il n'y aura pas de personnes en situation de handicap qui viendront chez vous. Et s'il n'y a pas de personnes en situation de handicap, ben vous n'allez pas créer de rente non plus. Et en fait, les personnes qui sont en situation de handicap, elles ont un pouvoir d'achat comme tout le monde. Et finalement, c'est un peu mettre une croix sur un chiffre d'affaires potentiel de pouvoir nous accueillir. Après, il y a énormément de sujets. Il y a tout ce qui est éventuellement les musées, tout ce qui est les trains. Enfin, il y a beaucoup, beaucoup de lieux qui ne sont pas accessibles. Alors, on voit de plus en plus avec la loi de 2005, il me semble, qui oblige normalement les ERP, les établissements recevant du public, à avoir tout ce qui est les rampes d'accès, ascenseurs, etc., pour pouvoir... ce que nous, en personne en fauteuil, on puisse rentrer dans ces établissements, mais c'est encore très rare finalement, même s'il y a des améliorations et c'est vraiment génial et il faut le noter, mais je pense que c'est un manque de sensibilisation parce que finalement, moi je le vois dans mon quotidien, les personnes de plus de 50, 60 ans sont beaucoup plus mal à l'aise à parler handicap et en général, ça va être tout le temps cette petite phrase quand ils vont nous rencontrer et au fait... ça ne te dérange pas, qu'est-ce qui vous est arrivé, si c'est pas indiscret. Si, c'est indiscret, on ne se connaît pas, tu n'as pas la peine de me parler. Alors que je trouve que les personnes de 40 ans et moins sont beaucoup plus sensibilisées et cette question-là vient soit pas du tout, soit plus tard dans la discussion. Chose que je comprends aussi et qui peut être un peu intrigante. Mais c'est vrai qu'on est de plus en plus, on essaye en tout cas de plus en plus à sensibiliser les personnes qui sont soit les enfants, soit aller dans les entreprises pour sensibiliser justement au handicap et leur dire ben voilà, vous n'êtes peut-être pas intimement concerné, vous n'êtes peut-être pas quelqu'un dans votre entourage qui est concerné, mais par contre, sachez que voilà, ça existe bel et bien, qu'il y a énormément de personnes en situation de handicap et tout type de handicap, 80% du handicap est invisible. Donc il y a beaucoup de personnes finalement en France en situation de handicap et on n'en parle finalement que très très peu. La représentation dans les médias est vraiment assez minime. Donc c'est vrai que même si ça a tendance à vraiment de plus en plus augmenter, la couverture médiatique qu'on a vue avec la série Toulouse-Lautrec qui était là les trois dernières semaines, eh ben, on en parle de plus en plus, c'est un sujet qui intéresse. Mais c'est vrai que les mises en action sont quand même... assez compliqué quoi à mettre en place.
Oui.
Et quand ça marche, et ben finalement ça marche pas tant que ça parce que les ascenseurs sont en panne, parce que les rampes d'accès pour monter dans le bus fonctionnent pas tout le temps. Enfin,
je saisis complètement. C'est agaçant. Mais vous dites que vous arrivez à faire avancer, à faire bouger les lignes un peu. Vous sentez?
Je sens que les choses évoluent. Là, par exemple, je suis en parallèle d'Ostobox. J'ai la chance de pouvoir faire des missions de conseil pour Île-de-France Mobilité, justement en les conseillant sur l'accessibilité. Et ça, c'est nouveau depuis 3-4 mois. Et clairement, c'est quelque chose qui, je pense, évolue parce que la société évolue et qu'ils se rendent compte que finalement, c'est un vrai sujet où il faut des personnes qui sont intimement concernées et pas juste on a loué trois fauteuils, on va mettre des valides à l'intérieur et en fait derrière, le rendu ne sera vraiment pas le même. Par exemple, moi, je suis touchée assez haut, j'ai plus d'abdos. Et bien, en fait, il y a certains mouvements que je ne peux plus forcément faire sans me casser la figure, par exemple, ou sans me tenir. Et du coup, c'est vrai que c'est de plus en plus accepté. mais ça reste quand même assez minime.
Oui, et vous rappelez que ça peut être aussi des personnes âgées, des mamans avec une poussette, quelqu'un qui doit utiliser des béquilles.
Complètement, et puis, on est tous une personne à mobilité réduite à un moment ou à un autre. Oui, en fait, qu'on soit à vélo, avec une valise, avec un déambulateur, avec un bébé dans les bras, on sera à un moment ou à un autre une personne à mobilité réduite.
Et je rappelle aussi, hein, bien évidemment, que nous sommes tous aussi potentiellement... on peut être touché demain par le handicap. Vous avez été touché au ski. Hein. Je pense qu'on ne s'attend pas, quand on part au ski, à revenir en mobilité réduite. C'est l'accident de voiture, c'est la chute, la mauvaise chute. Enfin, il y a tout un tas de situations dans la vie qui, malheureusement, amèneront certains et certaines qui nous écoutent ce soir à connaître le handicap. Donc, je rappelle cela parce qu'il faut se sentir tous concernés par le combat que vous menez et toutes les avancées possibles à partir de maintenant pour améliorer la vie de celles et ceux qui sont en mobilité réduite. Merci beaucoup pour votre énergie, votre luminosité, ma chère. Et je vous souhaite bien évidemment bon vent. Hein, et je pense que les voiles sont montées et qu'il n'y a plus qu'à souffler dedans. En tout cas, merci pour votre énergie. Et puis, n'hésitez pas à nous donner des nouvelles, des avancées hein, et de votre combat quand vous en aurez envie, Caroline.
Eh ben avec grand plaisir, un grand merci. C'est vrai que le sujet est assez vaste et il y a énormément de choses à dire. Mais merci en tout cas de m'avoir donné la possibilité d'exprimer sur le sujet et j'espère à bientôt.
Je vous en prie, vous serez toujours la bienvenue ici. Salut Caroline, au revoir.
Au revoir.